Quand le commerce frivole, diverti par ses outils, et que ça rigole dans l'opulence du mépris. Quand dans la baraque, on s'étend sur les divans, bien loin du cloaque, où pullulent les survivants. Dans l'imaginaire qui vit, je me sens tout réjoui. Je rêve un monde qui me ravit. Imaginons le profit.
Le monde est beau, tout le monde il est gentil. Le monde est beau, tout le monde il est gentil.
À propos, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lecture de l'article Fondation d'utilité publique vraiment.
En 2010, avec le soutien de son groupe à l'Assemblée nationale, la députée socialiste Michèle Delaunay proposait de faire le ménage au sein des fondations reconnues d'utilité publique qui bénéficient de dons défiscalisés. Une idée passée à la trappe dans la dernière loi de finances. Dans un contexte de chasse aux niches fiscales, la question mérite pourtant d'être soulevée. À chaque nouvelle loi de finances présentée par le gouvernement de M. Jean-Marc Ayrault, et votées par la majorité, les fondations reconnues d'utilité publique échappent au rabotage fiscal. En 2012, le cabinet du ministre du Budget d'alors, M. Jérôme Cahuzac, précisait qu'il n'avait pas été envisagé de « modifier la défiscalisation des dons aux fondations reconnues d'utilité publique ». Et la ligne n'a pas bougé depuis. Ces dons ne sont pas plus concernés par le plafond de réduction ou de crédit d'impôt, fixé désormais à 10 000 euros par foyer. Pourtant, le Parti Socialiste, PS, par la voix de la députée girondine Michèle Delaunay, aujourd'hui ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l'autonomie, avait en 2010 proposé au gouvernement de M. François Fillon d'évaluer et de revisiter le dispositif de reconnaissance d'utilité publique dans la perspective d'une révision juste et efficace des niches fiscales. Une proposition d'amendement soutenue par M. François Hollande et M. Ayrault, à l'époque dans l'opposition. En 2011, à droite, le député Union pour un mouvement populaire, UMP, Gilles Carré, avait lui aussi agité le landerneau du caritatif en proposant de faire rentrer les dons des particuliers dans le champ d'application du plafonnement global des niches fiscales et de leur donner un coup de rabot de 10%. Les associations à visée sociale, les mieux établies et reconnues, telles que le Secours Populaire ou les Restos du Cœur, étaient alors montées au créneau, de même que la Fondation Abbé Pierre ou la Fondation de France, très active sur la défense d'une philanthropie à la française. Créer une fondation ou un fonds de dotation permet d'affecter des biens ou des ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général à but non lucratif. Le régime fiscal est particulièrement intéressant lorsqu'on devient fondation reconnue d'utilité publique, FRUP, un statut proche de celui de la fondation d'entreprise. Selon une estimation du ministère de l'Intérieur datant de mars 2013, il existe en France 629 FRUP qui agissent majoritairement dans l'éducation, la santé, la culture et la recherche. Donner à une FRUP permet au contribuable de déduire jusqu'à 66% de son don, dans la limite de 20% du revenu imposable. Ce taux grimpe à 75% pour un montant maximum de 521 euros pour des fondations œuvrant auprès de personnes en difficulté, conformément à l'amendement Coluche pour les associations caritatives, voté dans le cadre de la loi des finances pour 1989. Mais les FRUP, dans leur stratégie de communication, cible surtout les personnes assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, qui peuvent défiscaliser leurs dons à 75% dans la limite de 50 000 euros par an. Les entreprises sont également visées. Elles peuvent déduire 60% du montant de leurs dons dans la limite de 0,5% de leur chiffre d'affaires. Ces conditions s'appliquent peu ou prou de la même manière aux 962 associations ayant également obtenu le label d'utilité publique. Ode à l'initiative privée. Pourtant, difficile d'y voir clair, tant les critères d'attribution de ce label semblent flous. Monsieur Lionel De Vic est avocat chez Delsol et Avocats, l'un des rares cabinets de France qui dispose d'un département entier consacré aux organismes à but non lucratif. Il admet que la notion est peu définie. L'utilité publique est une force d'intérêt général renforcée. Derrière l'intérêt général, il y a la volonté que l'œuvre s'adresse à un nombre suffisamment large de personnes. Le ministère de l'Intérieur, chargé de délivrer le label, ne se risque guère à plus de précision. Pour constituer une fondation, il est nécessaire d'avoir une dotation équivalent à 1,5 million d'euros, ainsi qu'un objet d'intérêt général, c'est-à-dire distinct des intérêts des créateurs de la fondation, et d'adopter des statuts conformes au statut type validé par le Conseil d'État. La notion d'intérêt général varie selon les mœurs et les époques. Ainsi, au début du XIXe siècle, a été jugée d'utilité publique la fondation de la maison Refuge du Bon Repos, qui se proposait d'offrir aux filles de mauvaise vie qui désirent changer de conduite et à celles qui, sans être tombées encore en faute, sont exposées à l'occasion prochaine de la séduction, des moyens sûrs et faciles de se soustraire aux dangers qu'elles courent. Plus récemment, en 1996, la fondation Jérôme Lejeune, active dans la recherche sur les maladies génétiques, a également obtenu le label, malgré son opposition controversée à l'avortement, y compris thérapeutique. Dans un tout autre genre, la Fondation des œuvres de l'Islam de France, reconnue en 2005, quelques mois à peine après sa création par M. Dominique de Villepin, était censée aider au financement de la construction de lieux de culte, sous l'égide du Conseil français du culte musulman. Coquille vide, elle a surtout servi à l'ancien ministre de l'Intérieur à se positionner sur la question de l'islam face à son grand rival, Nicolas Sarkozy. Enfin, des fondations dites « politiques » ont fleuri ces dernières années. Jean Jaurès et Robert Schuman, reconnus dès 1992 et proches du PS, Fondapol, droite et centre, et Gabriel Péri, parti communiste français, en 2004, ou encore Res Publica, lancé par M. Jean-Pierre Chevènement en 2005. Ne sont-elles pas à vocation partisane ? Elles ont pour but de permettre le rapprochement entre acteurs politiques, chercheurs, universitaires, responsables du monde syndical et associatif, chefs d'entreprise, dans un commun effort de confrontation intellectuelle susceptible de déboucher sur des préconisations utiles à la prise des décisions politiques. C'est en ce sens que leur objet est d'intérêt général, se défend le bureau des fondations au ministère de l'Intérieur. Payez votre ISF à une fondation plutôt qu'au trésor public. Ce titre du site Village des Notaires résume assez bien le but recherché par certains gros contribuables. Échapper à l'impôt prélevé par un État qui dépenserait trop est mal. Bercy tend d'ailleurs à considérer le don à une fondation comme une dépense fiscale, puisque la réduction d'impôt à laquelle il donne droit représente une recette en moins pour les caisses de l'État. Dans la théorie, on distingue fortement les dépenses publiques directes et les dépenses fiscales que l'on considère comme indirectes, explique Katia Weidenfeld, chercheuse en sciences sociales à l'École normale supérieure, ENS, et auteure d'À l'ombre des niches fiscales. Or, ces dernières sont bien des subventions, sauf que leur objet n'est pas décidé par les pouvoirs publics, mais par des acteurs privés qui vont affecter l'argent ici ou là. Monsieur De Vic, lui, est un fervent partisan du dispositif. Oui, c'est bien un impôt qui n'est pas collecté en direct, mais il est affecté à des activités dont l'État a décidé qu'elles étaient d'utilité publique. Donc, c'est un mécanisme vertueux, car la personne, en réalité, donne davantage pour une activité d'intérêt général que si elle se contentait de payer son impôt. Le procédé fait pourtant grincer des dents dès lors que les missions conduites par les fondations viennent concurrencer, voire mettre en cause, des services rendus par l'État. Un exemple, pioché dans le domaine éducatif, permet d'en saisir toute l'ambiguïté. La Fondation Saint-Mathieu pour l'école catholique, reconnue d'utilité publique en 2010, a pour ambition, selon son site internet, de collecter de façon récurrente 10 millions d'euros par an pour cofinancer 100 millions d'euros de travaux, et ainsi soutenir l'immobilier des écoles catholiques. La Fondation pour l'école a, elle, obtenu le label en 2008. Elle vient en aide financièrement aux écoles privées hors contrat, dites « libres », par opposition aux écoles publiques ou privées, sous contrat, la très grande majorité des écoles en France. Depuis sa création, elle s'attire une pluie de critiques. On lui reproche notamment de soutenir l'enseignement catholique intégriste. Pour M. Eddy Caldi, militant à la Ligue de l'enseignement et conseiller fédéral de l'Union nationale des syndicats autonomes, UNSA, l'existence d'un enseignement privé financé par la puissance publique me pose un sérieux problème. Le financement des investissements des écoles privées est interdit par la loi Goblet, précise-t-il. Quand on finance la fondation pour l'école par le principe de défiscalisation qui, de fait, est un subventionnement public, on contrevient à cette loi, tout comme à la loi Fallou, qui n'autorise pas un financement public allant au-delà de 10% des fonds propres de l'établissement. En 2010, Madame Delaunay citait elle aussi la Fondation Saint-Mathieu et la Fondation pour l'école dans sa bagarre pour réévaluer le dispositif de reconnaissance d'utilité publique, estimant que toutes deux contrevenaient à la loi Debré. La désormais ministre se refuse à tout commentaire, même si son cabinet reconnaît que son positionnement en tant que député était tout à fait différent. Au-delà de la bataille juridique, il y a bien une incongruité dans le fait que l'État soutienne le financement de fondations qui mènent un lobbying constant pour son démantèlement. Madame Anne Coffinier, directrice de la Fondation pour l'école, plaide ainsi pour une séparation de l'école et de l'État et milite pour un enseignement en dehors du grand corps malade de l'éducation nationale. La Fondation Institut Français pour la Recherche sur les Administrations et les Politiques Publiques, IFRAP, un think tank libéral reconnu d'utilité publique en 2009, martèle lui aussi que le public coûte plus cher que le privé pour un service de moins bonne qualité. Il souhaite l'embauche des fonctionnaires non régaliens hors défense, justice, police, etc., sous contrat de droit privé. C'est enfin un ardent défenseur des fondations et du mécénat. Cette préconisation d'un reflux de la puissance publique au profit de la générosité privée est donc en vogue chez les libéraux. Elle rejoint les thèses défendues par l'Institut Montaigne, dont le fondateur et président est M. Claude Bébéard, président jusqu'en 2000 du groupe AXA, qui figure par ailleurs au comité d'honneur de la Fondation Saint-Mathieu. En s'interrogeant sur la signification de ce grand mouvement, l'Institut conclut que l'intérêt général n'est plus un monopole d'État. L'initiative privée, fondée sur l'engagement volontaire et le contrat, peut relayer plus efficacement et au plus près des réalités une action publique défaillante. Et des pans entiers de la vie économique et sociale peuvent être pris en charge et animés par des structures associatives autonomes et performantes, soutenues par la générosité privée. C'est bien le sens des grandes mesures fiscales prises ces 15 dernières années, et notamment des lois nouvelles sur le mécénat social et culturel. La France dispose d'un arsenal législatif sur le mécénat parmi les plus performants du monde, rappelle l'avocat De Vic, impliqué lui aussi, à titre personnel, au sein du bureau de la Fondation pour l'école. Raffarin puis Sarkozy ont vraiment renforcé les choses avec cette logique assumée et acceptée qui consiste à redonner la possibilité à la société civile de s'investir dans des missions d'intérêt général. Cette période s'est également caractérisée par un désengagement de l'État de domaines autrefois considérés comme prioritaires, l'éducation, la santé, la culture, la recherche. Ce qui a conduit assez logiquement à son discrédit au profit des structures privées.
Un point intéressant à relever concernant cet article est qu'il approche la façon par laquelle les systèmes de fondation ont d'emblée été associés à la notion d'utilité publique au sein des populations, se parant pour ce faire d'une aura de mécénat au service des arts et de la culture. Dans les années 1980, par exemple, il était inimaginable de remettre en cause ce qui n'était pourtant qu'un postulat dans les milieux culturels d'alors, que ceux-ci fussent institutionnels ou off, pour reprendre cet anglicisme encore en vogue à l'heure actuelle, et ne signifiant pourtant pas grand-chose d'autre que son parallélisme au système institutionnel. Accord défendant de ces milieux, il faut cependant reconnaître que cet amalgame s'est révélé bien pratique, puisqu'aussi bien il permettait de faire rejaillir cette notion d'utilité publique dont bénéficiaient ces fondations sur l'ensemble des demandeurs de soutien à ces fondations, en l'occurrence les milieux culturels justement. Ce jeu de légitimation réciproque, relayé par les médias, a largement permis à la culture d'accéder à cette aura d'humanisme par lequel elle a su s'imposer en tant que bien indéfectible appartenant exclusivement aux démocraties libérales, celles-ci pratiquant pourtant la dictature de marché, imposant partout ses lois de concurrence, sa méritocratie, toutes ses caractéristiques inhérentes en somme à la doctrine mercantile et à ses injonctions consuméristes. Ce qui a permis à ces mêmes valeurs d'être propulsées sur le devant de la scène médiatique en tant que garante de l'esprit de partage, la culture pour tous, et de l'ouverture d'esprit, la multiplicité des formes et la prolifération des marchés culturels.
Ainsi se termine ce quatrième volet. Rendez-vous la semaine prochaine pour la lecture de l'article « Faites vos jeux ». Et c'est avec Wichita Ito de Jan Garbarek et Bobo Stenson Quartet que nous prenons congé.